Bonsoir et bienvenue dans cette émission. La proposition de la loi électorale a été jugée recevable par la plénière de l'Assemblée nationale lundi dernier et envoyée à la commission politique, administrative et juridique pour enrichissement. 18 innovations sont contenues dans ces textes de loi, notamment les cumuls des mandats des députés, la suppression du seuil d'éligibilité et les changements du mode majoritaire en lieu et place de la proportionnelle. Il y a aussi les votes des gouverneurs et vice-gouverneurs. Quelle analyse faites-vous des innovations apportées à cette proposition de la loi électorale? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Délie Sessanga, il est député national. Il est l'une des 13 personnalités qui ont initié la proposition de la loi électorale. Bonsoir honorable Délie Sessanga.
Bonsoir.
Alain Lomandja, il est analyste des questions électorales. Bonsoir monsieur Alain Lomandja.
Bonsoir Guy Massé, bonsoir à l'honorable Denis.
Et Jonas Tchombela, il est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Bonsoir, monsieur Jonas Tchombela.
Bonsoir, Guy. Bonsoir, monsieur l'abbé Alain. Bonsoir, l'honorable Stéphane.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires, 18 innovations ont été apportées à cette proposition de loi, parmi lesquelles la problématique de l'interdiction de la suppléance par des membres des familles et du cumul des mandats. Au cours des élections de 2018, certaines personnalités politiques ont postulé à la fois comme députés nationaux, provinciaux et sénateurs. Après avoir été nommés ministres, ces derniers ont laissé leur mandat électif à leurs épouses, enfants et frères. Les groupes des 13 personnalités disent vouloir moraliser la classe politique en interdisant ce cumul des mandats et la suppléance par un membre des familles, alors que certains députés s'y opposent car selon eux, cette disposition porte atteinte à l'article 13 de la Constitution. Les explications de Michel Kifindangoy.
La proposition du G13 d'interdire aux candidats de désigner comme suppléants leurs membres de famille a le plus suscité la protestation de certains députés. Alphonse Ngoï Kassangi.
Si vous interdisez aux membres de famille d'être suppléants, mais pourquoi ils sont alors candidats? La Constitution dit dans l'article 13 qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un à raison de son appartenance familiale, etc.
Pour Jacques Joly, le mandat électif relève de l'intérêt public et ne devrait pas être légué aux membres des familles comme un héritage.
Nous ne pouvons pas installer une république mandocratique de type familial. Nous devons éviter de transformer la république en une sorte de monarchie familiale comme un droit privé sous couvert de suppléance.
André Claudel Loubaïa renchérit sur la nécessité d'interdire qu'une personne postule à plusieurs postes électifs.
Il n'est pas normal qu'un seul individu se porte candidat à la fois à l'élection législative nationale mais aussi provincial. C'est ça que nous voulons interdire pour ramener l'élection à un niveau le plus compétitif possible.
Pour le G13, cette disposition permettra à la RDC de moraliser la vie politique et d'accorder la chance à tout Congolais de briguer un mandat électif.
L'autre nouveauté, c'est la problématique de la suppression du seuil d'éligibilité et son remplacement par un système de recevabilité des listes électorales à 60% des représentativités nationales. Mais qu'est-ce que ce nouveau système a pour avantage par rapport au système retenu dans la loi de 2006-2011 ainsi que celle de 2018, Michel Kifinangoy?
L'introduction du seuil de 1% dans la loi de 2018 visait à limiter des milliers de candidatures pour 500 sièges législatifs par exemple et promouvoir des coalitions fortes en lieu et place des partis dont le nombre est passé de 600 à plus de 1000 entre 2006 et 2011. Cependant, ce système a entretenu l'opacité dans l'attribution des sièges et mérite d'être supprimé, soutiennent plusieurs députés. Emery Okunji.
Nous devons avoir des élections qui nous amènent la paix. C'est pour cette raison que nous avons conseillé à nos collègues d'extirper de la loi ce qui a été comme une pépinière de la fraude électorale, notamment le seuil de représentativité.
Que propose donc la loi électorale du G13 à la place du seuil de représentativité? Jacques Joly.
Nous supprimons le seuil d'attribution des sièges pour prendre le seuil de recevabilité. Désormais, pour qu'une liste soit recevable, il faut aligner plus ou moins 60% de sièges à pourvoir, c'est-à-dire plus ou moins 300. À partir de ces critères, nous allons atteindre le même objectif.
Ce nouveau système amènera des partis et regroupements forts et limitera le nombre des candidatures fantaisistes, ajoute Jacques Joly.
Merci à vous, Michel Kifindangoy, pour ces dossiers. Honorable Delice Sanga, député national, vous êtes l'une des 13 personnalités qui ont initié la proposition de la loi électorale. Quel a été votre sentiment lorsque, lundi dernier, la plénière a jugé recevable votre proposition de la loi électorale?
D'abord, une victoire d'étape, parce que je rappelle à nos auditeurs que cela fait exactement plusieurs années que nous travaillons sur cette proposition. Je rappellerai pour la petite histoire qu'en 2012, j'avais proposé la loi sur la transparence du processus électoral, loi qui nous avait amené à des contestations en janvier 2015, parce qu'elle a voulu être détournée par le gouvernement de l'époque. Et ensuite, lorsque les difficultés sont apparues à l'issue du scrutin de 2018, comme parti politique d'abord, nous nous sommes retrouvés dans le bureau politique et avons opté pour des réformes vigoureuses et énergiques de la loi électorale. Et c'est ainsi que, avec d'autres collègues, dans ce que nous est convenu d'appeler le G13, nous nous sommes retrouvés pour réfléchir ensemble, pour faire une proposition qui a été faite et pendant 2 ans. Nous avons sillonné les différentes composantes de la société, à savoir la société civile, les partis politiques, les regroupements politiques, différentes institutions, à l'exclusion notable à l'époque du FCC qui avait refusé de nous rencontrer, pour avoir un projet consensuel qui adressait les grands problèmes des sociétés. Aujourd'hui, que cette loi soit reçue dans l'Assemblée nationale est motif de satisfaction, mais nous avons encore des débats qui vont se dérouler, nous allons voir quels sont les éléments qui vont nous mettre définitivement d'accord et quelle va être la physionomie définitive de cette loi que nous voulons pas trop éloigner de la structure et des innovations que nous avons introduites.
Voilà, s'il faut justement revenir à ces innovations, il y en a qui sont qualifiés de délicats, c'est comme par exemple la question du seuil d'éligibilité que vous, 13 personnalités, vous remplacez par un système de recevabilité des listes électorales à 60% des représentativités nationales. Honorable Delice Sanga, en termes simples, qu'est-ce que cela veut dire?
Écoutez, pour le moment, on avait le seuil. La difficulté du seuil électoral tel qu'il était introduit à 1% pour les élections nationales et 3% au niveau provincial, c'est que la CENI était la seule à calculer ce seuil et très souvent à le fabriquer. Et donc, ça a été un élément qui a privé nos élections de 2018 de transparence. Aujourd'hui, je suis élu député. C'est pour la première fois qu'en tant que député, je suis ignorant du résultat que j'ai obtenu en termes de seuil et en termes de voix. Et donc, nous avons dit qu'il faut simplifier les choses. Au lieu de calculer le seuil après les élections, ce qui donne lieu à des manipulations, nous voulons un seuil qui est calculé a priori et qui est déterminé par rapport aux sièges en compétition. Plus clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une liste, pour qu'elle soit recevable, il faut qu'elle donne au niveau des législatives nationales, sur les 500 sièges que compte l'Assemblée, il faut présenter une liste d'au moins 300 candidats. Pourquoi nous l'avons proposé? Parce que l'objectif qui était poursuivi par le seuil, en soi, n'était pas un mauvais objectif. C'est un objectif qui vise à rassembler davantage et à laisser l'espace démocratique aux mouvements les plus représentatifs et à pousser les partis qui sont mineurs à pouvoir se regrouper pour exprimer leur projet politique. Donc nous pouvons atteindre le même objectif, mais en ayant un critère beaucoup plus clair, transparent et qui est calculé a priori. Et de prime abord, tel que les débats se sont déroulés, sur cette question du moins, nous avons eu le sentiment et l'impression que tous les intervenants, à quelques une ou deux exceptions, ont été d'accord avec l'idée de supprimer le seuil électoral et d'avoir un seuil de recevabilité à la place.
Oui, honorable, si j'ai bien compris, vous voulez dire que chaque parti politique qui veut compétir doit présenter a priori une liste qui contient 300 candidats, c'est ça?
Au moins, elle peut présenter 500 candidats, si elle a les candidats, Mais pour que la liste soit recevable, il faut qu'il y ait au moins 300 candidats. Pas moins de 300 candidats.
Vous ne pensez pas que vous rendez davantage complexe cette question, honorable?
Non, non, non. On la simplifie au contraire. Parce que quand vous regardez, les listes qui ont été capables de faire ressortir des élus ont été des listes qui ont été plus larges, donc représentatives à l'échelle nationale. Parce que le souhait aussi de rationaliser l'espace politique, de réduire le nombre de regroupements et de partis politiques est un souci qui est fondé et qu'il faudrait rencontrer de manière progressive par des réformes qui vont se croiser. Celle-là, elle participe. Je ne veux pas dire que par cette seule réforme, on va réduire le nombre de groupes qui sont sur le champ politique congolais, mais elle va contribuer de manière significative à les réduire, mais à réduire dans le respect de la liberté, dans le respect de notre diversité et surtout par un critère transparent qui s'oppose à tous, pas par un critère discrétionnaire qu'un groupe est en train de fabriquer dans un coin. Donc le système est beaucoup plus simple. D'ailleurs, la plupart des députés qui au départ étaient contre parce qu'ils n'avaient pas eu suffisamment de pédagogie sur la philosophie de la réforme, on finit par comprendre et c'est comme ça qu'ils la soutiennent.
Et au sujet du changement du mode majoritaire en lieu et place de la proportionnelle, qu'est-ce qui a motivé ces changements?
Bon, vous voyez, depuis 2006, je dirais même depuis l'indépendance, chaque fois que nous faisons les élections dans ce pays, nous réfléchissons comme si l'exercice du pouvoir est un exercice qui doit permettre à ce que tous les groupes ethniques et tribaux dans notre pays puissent se retrouver. En réalité, il s'agit de favoriser plutôt la formation des grands courants autour de projets pour le pays. Et vous prenez les élections de 1960, les élections de 1964, toutes les élections qui ont eu lieu après n'ont pas donné lieu à l'émergence d'une coalition sortie des urnes suffisamment cohérente et forte. Et à chaque fois, il a fallu composer. Et si nous voulons que demain, les élections ne servent pas seulement à donner des postes aux gens, mais que les élections servent aussi à sortir des majorités cohérentes de gouvernement, il nous faut migrer progressivement vers un système majoritaire. Aujourd'hui, il faut que nos électeurs, quand ils votent pour quelqu'un, dans une circonscription, il y a 4 sièges, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième prennent les sièges, peu importe les listes de partis politiques auxquels ils appartiennent.
Et par rapport à la problématique de la caution à payer, quelle est l'option qui a été élevée?
L'objectif, parce que comme on exige de groupes à présenter 300 candidats, il ne faut pas qu'on nous accuse en plus de pouvoir surenchérir sur le levier financier et de faire un suffrage censitaire. Nous disons, au lieu de payer une caution par candidature, ça devra être des cautions payées par liste électorale. Et donc, en payant des cautions par liste électorale, on va avoir moins de contraintes financières et finalement ouvrir davantage le jeu politique à notre société. Et donc, ça va réduire le coût financier d'accès au mandat public parce que nos concitoyens, dans leur grande majorité, les enseignants, les fonctionnaires, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les agriculteurs qui sont dans nos circonscriptions sont pauvres et n'ont pas les moyens de pouvoir payer 1 000 $ pour pouvoir être candidat. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on demande à un enseignant dont on connaît le salaire, si demain il veut représenter sa circonscription, de pouvoir payer 1 000 $ de caution. Ça reste quand même excessif. Et donc nous disons, nous voulons réduire le montant de la caution, que la caution soit par liste plutôt que par candidat.
À partir du moment où vous n'arrivez pas à préciser les montants à payer, vous ne pensez pas que vous n'avez pas résolu le problème?
Non, nous avons précisé les montants, nous disons c'est 1 000 $, mais par liste.
Ça c'est pour la députation?
Pour la députation nationale.
Et pour la présidentielle?
Bon, pour la présidentielle, ils avaient mis à 100 000. On peut réfléchir, soit revenir au chiffre d'avant qui était 50 000, ou parce que certains considèrent que c'est une élection spéciale, spécifique, la laisser à 100 000, ça ne devrait pas poser problème. Donc entre 50 et 100 000, c'est une question option, voyez-vous, nous sommes très ouverts au débat, nous ne sommes pas là pour pouvoir imposer absolument une position. Nous disons, voilà l'orientation, 50 ou 100 000 pour la présidentielle, il y a 1 000 $ pour la députation nationale, mais par liste, pas par... par candidature.
Merci. Alain Lomanja, vous êtes analyste des questions électorales. Après avoir écouté l'un des initiateurs de cette réforme, le député Delice Sanga, quelle est votre réaction?
Allez, non, Manja, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment, on ne l'a pas. Jonas Tombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo. Comment vous réagissez quand vous suivez l'honorable Délice Sanga?
Merci pour la question. Je salue d'abord le courage de l'honorable Délice Sanga et ses collègues pour avoir tenu jusqu'à ce jour, parce que nous finirons finalement par obtenir une loi améliorée. Nous partageons pas mal beaucoup de réformes qu'ils ont proposées, parce que nous nous avons rencontrés lors des journées de la société civile à l'hôtel Pullman, où nous avions travaillé sur les référentiels de la société civile qui reprennent un certain nombre de possibilités de réformes qu'ils peuvent introduire dans la nouvelle loi qui est aujourd'hui en discussion au niveau du Parlement. Nous partageons parfaitement leur vision sur la question du seuil. Aujourd'hui, il faut qu'on le remplace par le seuil de recevabilité, ce qui est déjà un critère beaucoup plus transparent et objectif par rapport au seuil 20%, 3%, 10%, ce qui n'était pas assez très objectif, parce que finalement, on savait pas qui avait atteint le réel seuil, de quelle manière ce qu'on pouvait l'attribuer à un parti politique. Donc, l'option que nous avions en place était une option opaque. Je crois que l'option qu'ils viennent de proposer à théorie est une option qu'il faut exploiter à fond. Et nous disons, nous agréons cette option parce que dès au départ, le parti politique ou le groupement politique qui s'engage doit être à mesure déjà à ce niveau-là de présenter des listes à hauteur de 60% sur le nombre de pièces sollicitées dans la circonscription. Nous avons salué également l'idée de réduire la caution. Au lieu de payer par individu, pour payer par liste, ça nous paraît beaucoup plus réaliste. Et aussi, ça donne la possibilité aux partis politiques de s'organiser en groupe au lieu de prendre des milliers de masses d'argent sur chaque individu, ce qui n'est pas aussi très intéressant dans notre société. Nous saluons également cette possibilité où on doit refuser aux membres des familles qui ont pris en otage nos institutions. Vous verrez, c'est le papa qui est ministre, c'est la femme qui vient, ou c'est l'enfant qui vient, ou c'est le cousin qui vient. Finalement, la dictature des familles prend le dessus sur la dictature de la démocratie, ce qu'il ne faut pas encourager. Donc, nous pensons que les honorables députés pourront suivre le chemin des 16 parlementaires qui ont réfléchi sur cette question. Même également la question des cumuls, des candidatures au cours d'un même scrutin. Candidat député national moi-même, candidat député provincial moi-même, candidat président de la République moi-même, au juste, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut et sur quoi on veut jouer. Et derrière soi, c'est la famille. Je crois que cette amélioration est saluée par la société civile. Nous restons très vigilants sur la question de la représentation de la femme, parce que la condition parle de la parité. Nous voulons voir comment les honorables députés pourront nous aider à trouver quand même les justes mesures qu'il faut pour que nos collègues femmes retrouve la place telle que la condition les donne. Nous saluons également cette démarche, je pense que c'est amené dans le débat. Nous voulons qu'on rétablisse les détours qui ont été supprimés en 2011, les détours du scrutin présidentiel. Nous voulons voir le débat national. C'est comme ça qu'on pourra consolider la démocratie au niveau de notre pays et améliorer même les règles de la gouvernance électorale dans le pays à travers ces six améliorations qu'on a appelées des innovations. En réalité, ce sont des choses qui ont existé, mais malheureusement, la volonté politique de l'époque n'était pas au rendez-vous. Nous encourageons les honorables députés actuellement pour faire le même chemin comme les élèves collègues. Résumons que les honorables délits, ça a dit qu'ils ne sont pas là pour imposer tout, ils sont ouverts au débat. Même aux dernières minutes, ils ont rencontré la société civile, ça nous avons salué. Nous continuons à penser qu'il faut qu'on pense également sur les ressources des tours. Ça pourrait nous permettre d'avoir un président réellement élu avec le consentement, avec une large légitimité nationale. Parce que l'idée en soi, pour finir, c'est qu'on puisse minimiser tout ce qui nous divise et qui nous amène aux contestations et qu'on améliore. On ne doit pas chaque année revenir si la loi électorale avec les mêmes histoires, alors que nous avons la possibilité de les améliorer maintenant.
Minimiser tout ce qui nous divise, justement, cette question des cumuls des mandats, a divisé les députés. Vous avez suivi notre collègue Michel Kifindangoy dans son reportage qui dit que le groupe des 13 personnalités dit vouloir moraliser la classe politique en interdisant ces cumuls des mandats et la suppléance par un membre de la famille, alors que certains députés s'y opposent car selon eux, cette disposition porte atteinte à l'article 13 de la Constitution. Et cette frange des députés, il faut s'y tenir compte, n'est-ce pas, de son opinion. Et à votre avis, vous, membre de la société civile, quelle est la formule qui peut mettre tout le monde d'accord, parce qu'il faut éviter tout ce qui nous divise, comme vous venez de le dire?
Oui, je pense que sur ce point de vue-là où on parle de membres de la famille, il y a un problème d'éthique et de morale. Et c'est là où j'appelle l'honorable Denis de s'engager, beaucoup réfléchir avec ses collègues qui sont au premier plan. Nous voulons voir. Je pense qu'un membre de la famille peut être un militant d'un parti politique. Il a le droit d'être sur une liste. Ça risque d'être la liste de son frère. Donc il y a tout ça qu'il faut minutieusement. Comment arriver à dissocier un réellement membre inactif de la famille et un membre actif de la famille qui est dans un parti politique qui milite au même titre que d'autres militants qu'on ne peut pas priver sur leurs droits parce qu'il y a un frère qui est candidat. Ça aussi, c'est une question qu'ils doivent regarder réellement à fond. Comment alors donner la juste mesure qu'il faut dissocier un membre de la famille qui n'est pas militant d'un parti politique. Là aussi, c'est le parti politique qui doit interpeller, qui se laisse faire. La gouvernance démocratique qu'il cherche au niveau du pays, elle doit commencer d'abord à s'expérimenter au niveau du parti politique. Et pourquoi ne pas encourager l'idée d'organiser des primaires au niveau du parti politique? Si c'est un membre de la famille qui est passé par les primaires, tant mieux. Mais si c'est fait de cette manière, c'est que comme j'ai entendu un de leurs collègues au niveau du Parlement qui disait qu'on a peur du poison, quelqu'un de confiance, mais dans un parti politique qui est créé de plusieurs tendances de famille, comment voulez-vous réduire au finish à sa propre famille pour parler de votre sécurité au niveau des candidatures? Je pense que c'est un faux problème. C'est là que j'appelle la vigilance de l'honorable Sanga et ses collègues pour voir comment dissocier un membre d'une famille qui est militant d'un parti qui a le même droit que les autres militants. Et un membre simple d'un parti qu'on doit prendre aux dernières minutes parce qu'il va sécuriser tel député. Ça, c'est une question qui reste à réfléchir profondément au lieu d'y aller avec beaucoup d'émotion pour dire qu'on doit couper membre d'une famille. Là, ça ne vaut pas la peine. Parce que la démocratie, c'est aussi tous ces gens qui participent. Mais alors, même ils doivent être traités au même titre.
Alain Lomandja, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, qui?
Comment vous analysez les innovations proposées par le G13 pour réformer la loi électorale?
Alors, permettez-moi d'abord de saluer Jonas Tchombela et de dire à l'honorable député Denis Sesanga combien je suis vraiment fier de lui pour l'immense travail qu'il a fait depuis plusieurs années sur les questions électorales. Personnellement, j'avais déjà eu l'occasion de saluer sur vos antennes le travail préalable qui a conduit à l'élaboration de leur proposition de loi, ce travail de concertation avec les différentes parties prenantes. Et j'avais déjà commencé autrefois à saluer certaines innovations. C'est le cas, par exemple, de la clarification des dispositions relatives à la proclamation des résultats compilés bureau de vote par bureau de vote. Là où certains voient une sorte de redondance, j'estime moi qu'il s'agit là d'une clarification qui était nécessaire parce qu'elle permet de mettre fin au silence de la loi qui a été préjudiciable à la crédibilité et à la fiabilité des résultats qui étaient proclamés. Demain donc, on n'aura pas des gens qui pourront tirer prétexte de ce silence de la loi pour nous bombarder des résultats qu'on ne peut vérifier nulle part. Donc je pense que c'est quand même une innovation très importante, c'est la clarification qu'ils ont apportée.
Alain Lomandja, par rapport à cet aspect, la publication des résultats bureau par bureau, on sait que cette disposition existait déjà dans l'ancienne loi électorale.
Oui, mais la disposition existait à quel niveau? Il y avait trois niveaux d'affichage ou donc de publication des résultats, parce que c'est sous le titre de la publication des résultats. Au niveau des bureaux de vote, il fallait afficher les résultats aussitôt après. Au niveau des centres locaux de compilation des résultats également. Mais il n'y avait aucune, au niveau de la CENI bien sûr, il fallait afficher cela, mais il n'y avait aucune obligation pour que la proclamation des résultats compilés se fasse aussi de cette manière-là et qu'on exige clairement qu'il faut que l'affichage se fasse au niveau du site de la CENI, bureau de vote par bureau de vote. Or, c'est une innovation qui clarifie les choses et qui permet aux chercheurs, même aux citoyens, aux simples citoyens, de pouvoir vérifier les données de chaque circonscription électorale et de pouvoir se faire une opinion plus claire de ce qu'auraient été les résultats. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut même pas savoir des différents candidats à la présidentielle de 2018-2019 où est-ce qu'ils ont eu un pourcentage plus élevé qu'ailleurs. On ne peut pas avoir ces données-là pour traiter des résultats des élections. Donc c'est un problème très sérieux.
Alors que l'élection des gouverneurs au second degré suscite toujours des controverses, la plénière avait décidé, n'est-ce pas, de maintenir ce mode électoral en insérant le système de parrainage. Alain Lomanja, c'est quoi votre lecture par rapport à ce sujet?
Pour vous dire la vérité, je n'étais pas partisan de l'élection des gouverneurs au suffrage universel pour la simple raison qu'on a déjà un sérieux problème de coût de nos élections. Si donc on multiplie les élections au suffrage universel, il faut s'attendre aussi à la multiplication des coûts de ces élections-là, et donc on serait en train de passer tout le temps à ne préparer que les élections, alors qu'on a des questions majeures de développement, de gouvernance qu'il faut améliorer. Donc moi, personnellement, je n'attendais pas que les gouverneurs soient élus au suffrage universel, et ça ne me choque pas outre mesure. Seulement, ce que je constate, ce qui est présenté comme innovation dans la nouvelle loi, il ne me paraît pas tellement être une innovation dans ce sens que le parrainage comme tel ne remplace pas le caractère individuel du vote. Il n'y a rien qui garantit que quand un député a parrainé tel candidat gouverneur et vice-gouverneur, il doit nécessairement voter pour ce candidat parrainé par lui. Le vote, il est libre, il est individuel. Donc je ne vois pas en quoi le parrainage résout complètement le problème que pose l'élection des gouverneurs.
La machine à voter avait été contestée par les opposants en 2018. Quelle est l'option, à votre avis, qui peut être sage aujourd'hui au sujet de l'utilisation de cette machine?
J'avais été parmi les plus grands adversaires de la machine à voter. Je dois être honnête pour reconnaître que après les résultats, j'ai constaté qu'il y avait quand même des avancées importantes que la machine à voter apportait à notre processus électoral. Et là encore, je trouve que la proposition de loi du G13 ne va pas bien loin en proposant des mécanismes clairs de contrôle et de surveillance, non seulement de la collecte, mais aussi de la transmission des données d'une manière électronique. Parce que ce que j'ai vu dans leur proposition de loi aux articles 67 alinéa 3 et 68, c'est juste une évocation, une vague évocation de procédures garantissant la transparence. Moi, j'aurais attendu, par exemple, que des personnalités comme l'honorable Denis Sesanga, qui sont assez informés sur les questions électorales, qui fassent des propositions concrètes de ces procédures de transparence qui permettent d'assurer réellement la transparence de la transmission des données. Mais laisser ça dans le flou et laisser à la CENI de définir elle-même ses procédures et de les communiquer aux parties prenantes, ça ne résout pas le problème que nous avons.
Merci. Que faut-il pour que cette loi permette à la RDC d'organiser des élections inclusives, crédibles et apaisées? Honorable Delice Sanga, vous ne pensez pas que pour que les réformes que vous proposez puissent permettre à la RDC d'avoir des bonnes élections, que tout serait fonction de la volonté des dirigeants, de la volonté politique des dirigeants du pays? On se rappelle en 2018, on en parlait encore par rapport à cette question de publication des résultats des bureaux de vote. On se rappelle que lorsque, après dépouillement, quand certains bureaux de vote ont essayé de publier les résultats, c'est la CENI nationale qui a pris la décision d'interdire cela, ce qui était une violation flagrante, n'est-ce pas, de la loi. Vous ne pensez pas que pour que votre démarche puisse aboutir, il faut nécessairement une certaine volonté politique de la part des personnes qui dirigent les pays?
Écoutez, ça reste un élément fondamental et crucial de l'action politique. Monseigneur Mossengo avait coutume de me dire: on peut avoir toutes les lois que l'on veut, mais sans la volonté politique, on ne peut rien faire. Cependant, pour que la volonté politique soit là, il faut toujours trouver des mécanismes contraignants dans le cadre de la loi, parce que lorsque les hommes s'écartent de la loi et qu'on le soupçonne d'avoir pas la volonté politique, c'est justement par la loi qu'on peut les ramener au bon sens et dans la bonne direction. Le dispositif légal que l'on a mis en place, c'est un dispositif qui vise à susciter justement cet élan de volonté politique et à favoriser à ce que nous puissions avoir les bonnes élections qui soient. Alors quand vous dites par exemple pour la publication de résultats bureau par bureau, non, dans l'ancienne loi, ce qu'il faut comprendre, les bureaux de vote et les centres de vote ne publiaient pas les résultats, ils affichaient les résultats. Et cet affichage ne portait aucune conséquence pour la CENI et pour les électeurs, était fait à des fins uniquement d'information. La première publication, elle était faite au niveau de centre de compilation, et après les centres de compilation, la publication provisoire des résultats était l'exclusivité du bureau de la CENI, et qui tripatouillait, faisait ce qu'il voulait, et ne répondait d'aucune manière de ses actes en termes de responsabilité. Le changement que nous avons fait aujourd'hui pour réaliser que c'est un changement majeur, beaucoup de Congolais ne le savent peut-être pas, ceux qui nous suivent. Et je sais que lorsque ils suivent les élections françaises, par exemple, et qu'ils voient à 20h, alors qu'on a clôturé les élections à 17h, à 20h les résultats, ce que les Congolais ne savent pas, c'est qu'à 20h, lorsqu'on proclame Macron élu, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur français qui proclame. Parce que le ministère de l'Intérieur va le faire dans 2, 3, 4 jours. Ces résultats-là dont on parle le soir, et sur base duquel celui qui a échoué, comme c'était le cas Marine Le Pen, félicite ses électeurs, reconnaît les résultats, ces résultats-là, ils viennent des résultats publiés bureau par bureau. Et ce sont ces résultats publiés par bureau que les journalistes, les instituts de sondage, les partis politiques, les parties prenantes, dit, ok, là nous avons échoué, là nous avons gagné. Si vous voulez gagner demain en clarté pour le scrutin, c'est la publication des résultats bureau par bureau. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on affichait les résultats dans un bureau de vote, on interdisait aux journalistes d'en parler. On disait, non, laissez, c'est à la CENI qu'il doit faire. Non, cette blague doit cesser. Aujourd'hui, il sera question, lorsque les résultats sont publiés dans un bureau de vote, on pourra dire qu'à Kitambo, Monsieur tel est en avance par rapport à tel de autant de voix. Et ça va permettre de construire à la fois l'opinion et le... Parce que si nous voulons des élections transparentes, il faut des mécanismes transparents. Dans l'ancien système, aucune disposition de la loi n'obligeait la CENI à pouvoir le faire.
Merci. Nous allons maintenant donner l'occasion, n'est-ce pas, aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour qu'ils puissent donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Alain Lomanja, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Éminent Mwanda Asani Singoli de Bukavu, au sud Kivu. L'adoption de ce texte par les élus du peuple, un des signes indicateurs de l'organisation des scrutins dans le délai constitutionnel. Les pratiques rétrogrades contenues dans l'ancien texte de la loi électorale avec la fameuse pratique d'essai, la désignation des suppléants pour la députation de tout niveau, en est l'expression valable de la volonté du peuple congolais pour cet exercice qui donne l'occasion aux paisibles citoyens de s'exprimer sur la gestion de la République. Toutefois, les textes ne posent souvent pas les problèmes, mais c'est la personne du peuple congolais qui pose des problèmes. Dans de pareils cas, les personnes capables d'échanger le diamant en or, soit en pierre, mais toutefois, nos élus devraient rentrer dans leur mission initiale, celle de privilégier l'intérêt supérieur de la nation.
Alain Lomanja.
Bon, l'auditeur a ramassé plusieurs questions à la fois et je ne sais pas très bien à quel aspect de sa question je dois réagir. Je trouve qu'il salue le fait que la loi ait été jugée recevable et pour moi aussi c'est quand même une avancée. Et j'ai cru comprendre aussi que pour l'auditeur, le fait qu'on condamne dans la nouvelle loi des pratiques comme la nomination ou la désignation des membres des familles comme des suppléants est une avancée, et je considère ça aussi comme une avancée. Je considère également, j'ai entendu ce débat là mais j'ai pas pu réagir à ça, je considère également comme une avancée cette interdiction là des candidatures multiples, parce que j'ai l'impression que même si certaines personnes pensent ou croient que ça peut limiter la liberté de candidature, mais je crois qu'il y a un aspect de la moralisation de la vie publique dont il faut tenir compte. On ne peut pas dans une république cautionner une sorte de népotisme de fait auquel on assistait chaque fois qu'il y avait une personne qui était élue à plusieurs niveaux et qui cédait systématiquement son siège ou ses sièges à ses enfants, à sa femme, à ses femmes ou je ne sais pas quoi. Ça devrait quand même poser des problèmes à l'opinion publique, et on a senti quand même une clameur des populations qui n'en voulaient pas. Je pense que quelque part, cette pratique dénaturait un peu la nature même du principe de la représentation, en ce sens que la personne qui se présente devant le peuple n'est pas forcément celle qui va représenter ce peuple-là au niveau de l'Assemblée nationale ou de l'Assemblée provinciale.
Et à votre avis, que faut-il pour que cette proposition de loi, lorsqu'elle sera, n'est-ce pas, adoptée par les deux chambres du Parlement, puisse permettre à la RDC d'organiser des élections inclusives, crédibles et apaisées?
Alors, après l'adoption de la proposition de loi, il faut se rappeler que la loi ne fait pas tout. La loi pose les bases, mais il y a les acteurs institutionnels et individuels qui jouent des rôles très importants dans la mise en œuvre de la loi. Moi, personnellement, je suis assez réservé. Je comprends l'enthousiasme, mais je me dis oui, c'est justifié quelque part. Mais je suis réservé parce qu'il y a eu une loi qui a été votée, la loi organique sur la CENI. Moi-même, je ne l'avais pas approuvée, mais j'ai vu que même celle qui a été votée n'a pas été appliquée concrètement quand il s'est agi de mettre en place les membres de la nouvelle CENI. Qu'est-ce qui garantit que demain, nous n'aurons pas un autre Corneille Nanga ou d'autres membres de la CENI qui vont donner ordre aux comités locaux de compilation des résultats de ne pas afficher les résultats? Rien n'est garanti cela.
Merci.
Donc de l'adoption de la loi à l'application de la loi, il y a toujours un pas qu'il faut contrôler.
Merci Jonas Tombela. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
C'est Achille Omar Tchepele depuis la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cette proposition de la loi électorale est salutaire. Selon moi, le bon travail des élus du peuple est un bon signe de décollage de la vision démocratique de qualité fiable. Mais le plus grand problème reste la matérialisation de cette dite loi. L'application et le respect de ce texte reste la deuxième partie qui doit faire l'objet de la réponse à cette question. Car plusieurs fois, de telles propositions sont élaborées, mais elles restent dans les papiers et ne sont pas appliquées sur le terrain pour obtenir un bon résultat.
Monsieur Jonas Tchombela.
Oui, je salue M. Omar Al-Mumbashi. Je crois qu'il dit bien, il nous rejoint quand il parle que cette proposition de la loi est salutaire pour notre pays et même notre démocratie. Et je le rejoins. Je le rejoins également. D'ailleurs, M. Lavé Alain vient de l'évoquer tout à l'heure. La phase la plus difficile n'est pas d'obtenir la loi. La phase la plus difficile, c'est la mise en œuvre de cette loi. Je partage son inquiétude. Il appartient maintenant à non seulement les acteurs majeurs dans les institutions qui vont mettre en œuvre cette loi, il faut qu'on arrive à comprendre la vision du législateur, comment mettre en œuvre cette loi de façon pratique et correcte, telle que le législateur l'a voulu, au lieu de se trouver avec des gens qui donnent des ordres en violation de la loi. C'est pourquoi j'appelle l'honorable Sanga qui le suit davantage à plus renforcer dans la loi la dimension sanction. Cette dimension-là, peut-être si elle est renforcer et comment appliquer cette sanction-là aussi. Il faut qu'on y réfléchisse davantage. Parce que dans notre pays, on a des lois, mais dans la mise en œuvre, il se pose des soucis. Nous en avons une très longue liste là-dessus. Et je partage son inquiétude sur la mise en œuvre. Et nous sommes interpellés tous. Non seulement que nous interpellons les institutions, mais aussi nous, la population, nous avons une part de responsabilité. Nous devons nous approprier ces lois et exiger leur mise en œuvre telle que le législateur l'a voulu.
Merci, honorable Delice Sanga. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Abalo entier à partir de Kinshasa. À mon humble avis, cette proposition de loi électorale n'est pas favorable et ne répondra pas aux attentes et aspirations du peuple congolais. Il ne reste pas une mesure à la majorité actuelle. Mais il faut tout simplement dire que la classe politique congolaise a un problème d'acteurs dans ce domaine. Parce que comme l'histoire nous enseigne, à l'époque, on a dit, une frange de partis politiques s'opposait à toute révisitation de la loi électorale, par exemple, croyant que les bénéficiaires de cette dernière fut la majorité de l'époque. Et c'est la même chose que nous sommes en train de vivre aux côtés opposables de Jules. S'agissant des innovations, je demanderai à nos élus nationaux de légiférer des lois qui auront de l'impact avec nos cultures et que les caractères impersonnels soient pris en compte pour que ces dernières soient allouées par la majorité du peuple congolais.
Délice Tanga.
Une loi qui mettra 100% des Congolais d'accord, malgré le fait que je recherche le consensus, ce n'est pas pour aujourd'hui. En revanche, nous pouvons voir que cette loi, de toutes les lois qui ont été faites dans ce pays sur les 20 dernières années, et je suis législateur depuis 2006, c'est l'une des lois qui a consulté le plus de couches sociales. Faire la critique de cette loi, penser qu'elle a été faite sur mesure, c'est ignorer le fait que cette loi a été élaborée in tempore non suspecto, à une période où ce qui dirigeait c'était le FCC Cash. Et donc, on n'a pas pu faire cette loi pour le FCC Cash. Donc, on n'a pas pu faire cette loi pour l'Union Sacrée, parce qu'au moment où on l'a élaborée, l'Union Sacrée n'existait pas. Donc, c'est véritablement une loi impersonnelle. Et j'appelle les peuples congolais à la soutenir, parce que c'est la loi qui peut remettre le processus électoral sur le rail. J'ai entendu ici quelqu'un parler de la sanction. Effectivement, l'impunité en matière électorale est la cause première du chaos électoral auquel nous avons assisté en 2011, en 2018. Pour y mettre fin, notre proposition a prévu des sanctions pénales contre les membres de la CENI et les agents de la CENI. Et d'ailleurs, les membres de l'Assemblée nationale ont même demandé ce à quoi nous avons accédé, que les poursuites contre ces membres de la CENI, que les infractions qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions soient des infractions imprescriptibles, parce qu'ils désorganisent complètement la communauté nationale. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la CENI ont le sentiment d'être dans l'impunité totale, qu'ils peuvent se livrer à tous les actes pour saboter le processus électoral. Donc cette dimension sanction existe bien. Mais puisque nous cheminons vers la fin de l'émission, je voudrais dire une chose. Sur quelque chose, une innovation majeure de cette loi, c'est aussi de faire à ce que la femme soit représentée. Parce que le fait que la Constitution ait posé qu'il y ait la parité et que nous évitions que cette parité ne soit dans la loi, c'est en fait le refus de notre société de pouvoir intégrer la femme. Et je crois que nous devons pousser pour qu'il y ait davantage de femmes qui viennent faire de la politique. Et c'est un appel que je lance à toutes nos mamans, nos sœurs, nos compagnes, tout ça, de s'engager dans la vie politique, parce que la vie de la nation ne concerne pas que les hommes, elle concerne aussi le genre féminin.
Merci, honorable Sessanga. J'ai considéré ça comme votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Jonas Tiombela, votre mot de la fin.
Le mot de la fin, nous saluons d'abord l'initiative de Sessanga et ses collègues et l'acceptation de cette loi au niveau du Parlement. Nous appelons la population à rester vigilante sur tout ce que nous attendons comme réforme dans cette loi. Sinon, ce qui se fait sans nous est contre nous. Il faudra que nous soyons vigilants. Une fois cette loi votée dans l'esprit et la lettre telle que se présente actuellement, nous devons nous approprier cette loi-là. Parce que nous voulons voir des élections paisibles, inclusives, acceptées par tous, transparentes à l'horizon 2023.
Merci. Alain Lomandja, votre conclusion?
Ma conclusion, c'est d'inviter les députés nationaux, les sénateurs aussi, à voter en toute responsabilité cette loi, mais à veiller surtout sur les dispositions qui puissent permettre la libre expression de la volonté du peuple et de demander aux populations de rester vigilantes, parce que le fait d'avoir une bonne loi ne signifie pas forcément qu'on aura de bonnes élections.
Merci à vous, honorable Edelice Sanga, à monsieur Alain Lomaja et à monsieur Jonas Tchombela d'avoir accepté de participer à l'émission. Merci aussi à Jean-Claude Nsala qui était à la technique et aussi Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Soubou-Jangoué. À la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.